Vous, pour vous, avec vous, Radio Occitanie vous accompagne 24 heures sur 24.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons le jeudi de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Marianne Folio. Bonjour.
Bonjour.
Qui va nous lire en direct, exprès, rien que pour les auditeurs de Radio Occitanie, une nouvelle intitulée « Et si on sortait ce soir ?» Il va nous en parler dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Alors, nous retrouverons Gargouillette et Francis Lafitte, l'auteur du guide « Visiter Toulouse avec Gargouillette » le samedi 2 juin à 9h30, et oui, c'est pour les leftos, au Leclerc de Roques-sur-Garonne, et ainsi que le samedi 8 juin, le samedi suivant, à 9h30, au Leclerc, cette fois-ci, de Roufiac. Ensuite, le prochain rendez-vous du Café littéraire de Tournefeuille aura lieu le mercredi 6 juin à 20h30. C'est à la Briocherie qui se situe 1 boulevard Eugène Montel à Tournefeuille, donc. Et ça sera une lecture et un débat sur le livre « Le dictionnaire amoureux » d'Alain Chiffre. Et ce sera le dernier café littéraire de la saison avant la rentrée de septembre. Et puis, la dernière info pour vous rappeler que l'atelier de lecture de poésie animé par Blandine Poney aura lieu samedi 9 juin de 10h30 à 12h30 à la médiathèque José Cabanis au 3e étage, au petit auditorium. Donc l'atelier de lecture de poésie est gratuit, mais il est préférable de s'inscrire pour une question de place. Je vous donne le numéro, c'est le 05 62 27 45 69 pour tout renseignement. Et là aussi, ça sera le dernier atelier de lecture de poésie avant la rentrée de septembre.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. Et oui, oui, c'est bientôt l'été, hein, pas encore, mais presque. Alors, Marianne Folio, vous êtes née à Carmeau, dans le Tarn.
Oui, oui.
Mais vous avez un joli prénom qui vient de Pologne.
Voilà, c'est ça.
Et par votre grand-père maternel, vous avez des origines serbo-bosniaques.
Voilà, c'est ça.
Voilà, donc c'est tout un mélange, hein, Marianne.
Ah, ouais, ouais.
Alors, vous avez fait plutôt des études littéraires supérieures et plutôt de langue, hein, également anglais, sciences du langage et sciences de l'éducation.
Voilà.
Donc voilà, l'écriture a toujours eu une place, et la lecture aussi d'ailleurs, parce que vous avez, je crois, appris à lire avant d'aller à l'école, tout seul, comme un grand.
Et voilà. Ouais.
Donc la lecture et l'écriture sont intimement liées, on va dire.
Oui, c'est vrai, ça passe par un attrait des mots, voilà, des sonorités,
ouais.
Etc. Quoi.
Tout à fait. Et puis bon, à l'adolescence, vous avez quand même choisi l'écriture. Enfin, l'écriture est devenue plus importante.
Ouais, ça s'est imposé à moi, c'est vrai que c'était un bon moyen d'expression, en fait, quoi.
Voilà.
Et il y en a qui font de la musique, mais moi, je sais pas, j'ai préféré écrire, quoi.
Voilà, c'est aussi une musique, hein, la musique,
oui,
des mots.
Exactement.
Hein,
c'est
tout
aussi
à fait.
Musique, quoi.
Oui, pour vous, l'écriture, c'est vraiment le moyen d'expression absolu.
Voilà, oui, oui, exactement.
Alors actuellement, donc, vous travaillez à la CRAM, là où travaille aussi Christian Moreto, qui est animateur aussi à Radio Occitanie.
Voilà, c'est ça.
Et décidément, la CRAM, voilà, abrite des gens connus. Et donc, vous vous réservez, voilà, du temps pour l'écriture, pour les mots, pour la lecture aussi. J'imagine que vous continuez à lire un peu aussi.
Oui, hein. Oui, je continue toujours de... Bah, il faut toujours, voilà...
Se maintenir dans le flot des mots.
Exactement.
Alors, cette nouvelle... Marianne, donc cette nouvelle au joli titre, hein, « Et si on sortait ce soir hein, ?» c'est une nouvelle que vous avez écrite pour participer ou que vous aviez écrite et que vous avez proposée
occasion ? Non, c'était pour participer à ce concours-là du CROUS.
Au concours du CROUS, ouais. Donc c'était en 2006.
Ouais, c'est ça.
Alors le thème cette année-là, c'était la prison, enfin prison.
Ouais, film prison, hein, tout court.
Prison, voilà. Ouais. C'est ça, ça. Voilà le thème de 2006 de la nouvelle, du prix de la nouvelle du Crous. Et donc vous avez eu le prix du jury. Voilà, pour ça. Cette nouvelle.
Voilà, en fait, c'était le prix en tant que meilleure nouvelle d'un étudiant. Parce que, enfin, moi, je pensais que le concours était ouvert qu'aux étudiants, et en fait, c'était pas le cas. Mais je me suis rendu compte qu'à la cérémonie de remise des prix. Et donc, enfin, voilà, moi, j'ai eu le prix du meilleur étudiant, quoi. Voilà.
D'accord, c'est dans ça. La catégorie, voilà, étudiant. Après, il y en a eu d'autres, voilà, qui n'étaient pas étudiants.
D'où, voilà, cette appellation, mais... prix spécial du jury, quoi.
Donc c'est une belle reconnaissance
oui,
pour vous, pour ce texte. Hein, pour
oui, oui, surtout que bon, c'est vrai que ouais, c'était un des premiers que je faisais et j'avais pas... c'est venu comme ça en plus. On m'a proposé ce projet et puis c'est vrai qu'au début, j'étais pas très chaud pour le faire. Et puis bon, finalement, je me suis laissé imprégner de l'idée, etc. Et puis, ouais,
pas très chaud pour le faire par rapport au thème ou par rapport au fait de concourir
Non, c'est simplement que j'aime pas écrire sur commande. En fait.
Et oui, ça faisait un peu ça, oui, l'écriture sur commande.
Bon,
oui.
Après, c'est vrai que ça correspondait à un moment où... Enfin, voilà, ce thème-là, quand même, me parlait. C'était à un moment donné où... Enfin, voilà, je regardais notamment une série télévisée. C'était pas Prison Break.
Ah, mais c'était ce que j'étais en train de penser, justement.
Non, c'était pas du tout Prison Break, quoi. Et donc, c'était une série télévisée sur le milieu carcéral qui m'avait beaucoup marqué. Et donc, je me suis laissé imprégner des émotions que cette série me procurait et ça m'a servi pour recoucher quelques idées et ensuite les enchaîner dans un petit texte, quoi.
Ouais, un petit texte, mais qui est très fort. Hein. Moi, cette nouvelle, quand je l'ai lue, elle m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est pour ça que j'avais envie, et elle mérite d'être entendue par les auditeurs. C'est une nouvelle donc à la chute magnifique, hein, comme digne vraiment du genre de la nouvelle, parce que la nouvelle, c'est ça, c'est d'écrire une histoire courte qui monte un peu, qui monte en puissance et puis qui a une chute qui sidère un peu le lecteur.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que bon, en plus, au début, j'étais pas du tout familier avec cet exercice-là, justement.
Ah oui, c'est un exercice de style, hein,
ouais,
la nouvelle, c'est vrai que c'est pas évident.
Du coup, quand j'ai commencé à le rédiger, j'avais déjà fait le total des mots, alors que j'avais pas mis un dixième de
ce que vous vouliez mettre.
Voilà, donc c'est vrai qu'il a fallu, justement, que je me recentre vraiment sur quelque chose de concis et d'essentiel. Et bon, c'est peut-être ça aussi qui fait l'impact du texte, enfin, j'en sais rien.
Oui, sûrement, certainement. Hein. Puis c'est fluide, voilà, ça, de toute façon, les auditeurs vont pouvoir tester en direct, hein, puisque donc, vous allez nous lire donc, cette nouvelle qui s'intitule « Et si on sortait ce soir ?» Alors on va avoir une petite musique de fond pour annoncer la lecture, votre lecture, hein, c'est vous qui faites l'émission finalement aujourd'hui, Marianne. Je vous laisse carte blanche pour, pour animer cette émission et on va donc écouter « Et si on sortait ce soir ?» Donc une nouvelle qui a été primée donc en 2006 au concours de la nouvelle du Crous.
Alors,
c'est intimidant, non ? Un petit peu ? Non, ça va aller.
Donc, la lueur rouge du radio-réveil réchauffe la chambre grâce à ses chiffres incandescents. 23h54. Plus que 6 minutes, avant qu'il ne me reste plus que 6 jours. Cette fois-ci, je sors. Je le sais. Ça fait quand même 15 hivers que j'attends ici. 15 ans que je n'ai pas bougé, enfin. Quand je suis rentré, j'étais un petit peu vert. Aujourd'hui, je suis arrivé à maturité. C'est le bon moment. Et puis, je n'ai aucune envie de rester 15 hivers de plus ici, à moisir. À risquer la putrescence définitive. C'est d'ailleurs la seule et unique envie qu'il me reste, sortir. J'ai besoin d'air, de grand air, d'espace, de grands espaces. Pour l'instant, ma seule escapade, c'est cette image. Le tatouage de mon colocataire, c'est comme ça que je les appelle. Un cheval couleur de jet qui galope vers l'horizon. L'omoplate gauche tient lieu de montagne dans cette fresque cutanée. J'ai toujours trouvé ça bizarre, ce cheval qui galope vers la partie gauche du dos, comme s'il faisait marche arrière. Comme s'il courait vers le passé, comme s'il fuyait un futur effrayant. Le sang d'encre de ce Mustang fictif lui a fait s'en retourner, aller là où sa liberté le mènerait, pas vers le futur. Je n'ai jamais osé lui poser la question à mon colocataire. lui demander pourquoi il s'est fait tatouer un cheval qui court vers son omoplate gauche. Il faut dire que cela fait seulement un mois que Guillaume est ici, et on n'a pas encore eu le temps de vraiment devenir familier. Même si la nudité est publique en prison, et que j'ai déjà eu tout loisir de contempler son dos. Plus qu'une omoplate, mon horizon à moi, ce n'est qu'une poignée de barreaux accolés à la fausse clarté d'une fenêtre, beaucoup trop haute de toute façon pour qu'on puisse s'y attarder et observer un extérieur. En somme, mon horizon est vertical, mon monde est intérieur. Cela fait 15 ans que je suis ici. 15 années que mes sens s'érodent, que ma sensibilité s'effile. Mes sensations se sont logiquement circonscrites à quelques notions élémentaires, quelques nuances essentielles. Ma vue s'est faite cubique et sombre, mon toucher s'est fait rugueux et moite, mon ouïe s'est faite grinçante et claquante, mon odorat s'est fait âpre et brun, mon goût amer. Hey, réveille-toi ! Dépêche-toi de te lever avant que je vienne te secouer. Bon sang, je ne me suis pas réveillé. Oui, oui, tout de suite. C'est bien la première fois en 15 ans que je ne me lève pas à l'heure. Je crois bien que le réveil a flanché cette nuit. Je ne vois plus les chiffres rouges. J'entends un cliquetis s'éloigner. Le gardien a eu confiance en ma réponse laconique. Il faut dire que lui, je le connais mieux que mon colocataire. On est arrivé presque en même temps ici, chacun de son côté des barreaux. De là à dire qu'on est devenu amis, il y a un mur à ne pas franchir. Disons simplement qu'on se connaît. Je sais quand il travaille, comment il travaille, et il sait que je suis là, comment je me comporte. C'est un échange d'observations. Il a dû être surpris tout à l'heure de m'avoir vu commettre le seul faux pas de ma carrière, endormi que j'étais. Mais bon, inutile de faire un rapport. Ma conduite a toujours été exemplaire et je sors dans 5 jours. Même s'il faut bien dire que j'ai l'impression de vivre perpétuellement un seul et même jour, sans fin. Le réfectoire est plein de silencieux appétits. L'ambiance est embrumée comme au lendemain d'une fête de tous les diables. Sauf qu'ici les rastels sont peu fréquents, secrets, au nombre d'invités restreints, 2 au maximum. Le petit déjeuner n'a pas toujours été aussi calme. Je me souviens d'un matin, ça devait être il y a 7 ans. L'atmosphère était pleine de rumeurs inquiétantes. Le tintement des couverts dans les écuelles était nerveux plus qu'à l'accoutumée. L'ambiance était lourde et pesante, comme une touffeur d'été. C'est peut-être bien en été que ça s'est passé d'ailleurs. Le bruit des couverts en plastique était tonitruant, infernal. Du simple plastique blanc qui faisait crisser, souffrir la ferblanterie. Mon colocataire de l'époque mangeait à côté de moi, sereinement. Un détenu d'une autre unité s'est alors approché de nous, l'air déterminé, et a soudain planté une brosse à dents dans le dos de Sergi. Les gardiens n'ont pas eu le temps de réagir qu'il avait déjà les mains pleines de sang. Un sang impur, diraient certains. Bouclage général à peine sorti de nos nuits, de nos cellules. Surveillant aux abois, mouvements désorganisés, brutalité gratuite, cris divers, c'était la panique. Le meurtrier fut immobilisé au sol et jeté au trou illico. Je fus extrêmement choqué et attristé, d'autant plus que Sergi était quelqu'un de bon avec qui j'avais noué de solides liens et une bonne compagnie. Il ne lui restait que 15 jours à purger. Il m'avait déjà promis qu'il viendrait me rendre visite le plus souvent possible, ma famille se faisant plutôt rare et mes proches s'éloignant de plus en plus. Il est mort un matin au petit déjeuner, à cause d'un vieux contentieux qui traînait entre lui et son assassin, un ancien complice. Tous les deux étaient dans les affaires, la grande escroquerie organisée importée des pays de l'Est. Ils étaient tombés ensemble, mais cela ne les avait pas unis pour autant, puisqu'une vieille dette s'était transformée en haine féroce, en vengeance souveraine. La détention, les barreaux, l'emprisonnement, tout ça avait fait tourner la tête à cet homme, l'avait fait ruminer comme une bête, jusqu'à confectionner minutieusement un poignard en fondant et limant les poils d'une brosse à dents, jusqu'à décider qu'un beau matin il partirait, bille en tête, éliminer celui avec qui il avait fait équipe. Je regrette Sergi tout le temps. Il était peut-être un escroc de grande envergure, mais pas un assassin. Et puis, c'était un être humain avant tout, avec ses qualités et ses défauts, quoique ces derniers m'aient paru inexistants en 5 ans de vie commune. Il m'avait appris le serbo-croate, m'avait initié à l'orthodoxie, et il était en train de m'enseigner la lecture de l'alphabet cyrillique. Puis il est mort. Je ne saurais jamais lire le cyrillique. Il n'y a pas de moment pour mourir en prison. Matin, midi, après-midi, soir, aucune règle ne fixe l'heure du grand départ. Retour en cellule pour la douche avant d'embaucher à l'atelier. Prérogative moderne, les douches sont désormais dans les cellules. Depuis peu, les normes d'hygiène nous ont rendu un semblant d'intimité, car avant, il fallait la laisser au placard. Se doucher est devenu une liberté. À 8 heures, comme tous les jours, comme depuis toujours, je descends à l'atelier de menuiserie pour raboter, poncer, mesurer. La prison, c'est aussi l'occupation. La direction essaie de nous rendre utiles, et travailler le bois est un bon compromis qui permet de se sentir noble malgré tout. Aux États-Unis, les détenus de certains centres pénitentiaires font du phoning pour des compagnies aériennes. Vous appelez pour acheter un voyage au soleil et sans le savoir, la voix affable de celui qui vous organise votre transit de rêve appartient en fait à un gaillard barbu, tatoué de la tête aux pieds, condamné à perpétuité pour double assassinat sans possibilité de conditionnel. Quand il vous vend le voyage, il essaie de s'imaginer aussi bien que vous ce que peut être le soleil, lui qui de toute manière restera à l'ombre. Ce travail de phoning lui rappelle tous les jours qu'il n'aura plus jamais aucune chance d'aller où que ce soit. Le pays des libertés aime bien ce genre de paradoxe. Ici, on fait des planches, infiniment, de toutes les dimensions. On importe et on exporte l'extérieur, on le touche, on le frôle, on le sent, on en fait des copeaux. Certains disent que la direction se sert de nous pour gagner un peu d'argent, mais de toute façon, on est là alors. Et puis, le petit pécule perçu permet de se familiariser avec l'argent propre en quelque sorte. La plupart du temps, il est pourtant réinjecté dans les petits trafics au sein même de la prison. Nourriture, revues porno, héroïne, l'argent finance le vice sur les lieux mêmes de la rédemption, c'est comme ça. Peu importe, dans 4 jours, j'aurai enfin quitté mon hôtel sans étoiles, mon travail à l'atelier. Peut-être qu'une fois dehors, personne ne voudra de moi, personne ne voudra me rendre utile comme ici. Qui veut rendre utile un ancien détenu? Les prisonniers sont des prisonniers à vie, quelle que soit la longueur de leur peine. Je ne me fais pas d'illusions, la liberté se paie cher, au bout de nombreuses années d'isolement carcéral au mieux. Mais la rédemption, elle, n'a pas de prix, elle ne s'achète pas, on ne se rachète pas. C'est après le repas et la promenade, à la mi-journée, que les détenus ont le droit d'aller à la bibliothèque et au gymnase, après s'être inscrits au préalable. Il faut que je me dépêche de lire Le Magicien d'Oz que j'ai emprunté, puisque je m'en vais dans 3 jours. 3 jours, 200 pages, le temps se compte en mots. Les syllabes sont des secondes, certaines phrases des minutes, certains chapitres des heures. Le fil des phrases, l'enchaînement des mots, cette continuité scripturale, c'est un sens, un rythme imprimé à nos vies, le fil d'Ariane menant droit à la liberté. Les livres, la culture, personne ne douterait autant de l'attrait que ces objets peuvent exercer sur les âmes embastillées. La prison, c'est aussi la culture, l'ouverture de l'esprit vers un extérieur, quand bien même l'enveloppe charnelle se complète, s'accoutume d'un intérieur tout sauf cosy. Réchauffez une âme, donnez-lui des couleurs, et un corps reparaîtra, vaporeux, fantomatique, évanescent. Les détenus constituent une nouvelle élite, une élite de l'ombre. Chacun entame ou poursuit des études ici. Longue et brillante pour les perpétuités, courte et intense pour les petits escrocs. C'est une élite mise à l'ombre, à l'écart, enfermée. Une élite qui réfléchit et qui se tait, souvent par contrainte. Au gymnase, c'est la culture du corps, avec en filigrane l'espoir scellé et intime, qu'une libération conditionnelle, une grâce présidentielle, une évasion vous donneront l'occasion de vous exposer à l'extérieur, beau et musclé. Dans ce portrait illusoire, seul le bronzage est absent. Les barreaux ne laissent pas passer les ultraviolets. Les détenus ont besoin du sport, de se sentir actifs. Je me souviens d'un été, un gars incarcéré pour braquage à main armée s'était particulièrement entiché du Tour de France, si bien qu'il s'était mis dans la tête, comme un défi, d'accomplir exactement le même nombre de kilomètres chaque jour que le peloton sur l'étape. Lui, il n'avait pas eu le choix de sa monture, il s'était rabattu sur le seul et unique tocard mis à disposition entre ses 4 murs. Il passait ses journées au gymnase à pédaler ardemment sur le vélo d'appartement de prison. L'affaire commençait à faire sensation dans le microcosme carcéral, dans cet univers de briques et de béton désenchanté, si bien qu'avec accord de la direction, le vélo du gymnase fut monté dans sa cellule pour qu'il puisse pédaler devant sa télé, en même temps que ses coéquipiers. Il fallait le voir se démener, monter en danseuse sur le galibier imaginaire. Il forçait le braquet pour s'y croire un peu plus. Il transpirait à grosses gouttes, sa cellule était une étuve, et le ravitaillement était assuré par les gardiens, pour ne pas le stopper dans son effort. Détenus et personnels se pressaient au pas de la porte de sa cellule, soudain devenue si attractive. Tout ça pour la beauté de le voir se démener sur un ruban d'asphalte cérébral. Il n'avait pas de casque ni de combinaison, ni d'équipe d'ailleurs. Il avait juste ses mollets et son acharnement de bête mis en cage. L'attraction avait été telle que les médias avaient bien failli venir pour couvrir l'événement, ou plutôt l'anecdote faite événement. Mais la direction avait refusé cette ingérence, cela aurait fait désordre. Le vrai événement, c'est quand le tour s'est arrêté. Notre champion ne l'a pas supporté. Pas supporté que le vélo soit redescendu au gymnase. Pas supporté de ne plus être de la partie, seul et abandonné, sans étape à parcourir le lendemain. Il savait que quand il sortirait d'ici, il n'aurait plus la condition physique pour aller sillonner les vraies routes. 3 jours après la fin du tour, un gardien l'a retrouvé pendu dans sa cellule. La liberté est circulaire et l'illusion est matérielle, rugueuse comme le bitume. Un suicide, cela occasionne quelques tracasseries administratives, mais cela libère une place. Parce que les places sont chères en prison. Prisonnier, c'est un vrai métier d'avenir. Je jure que l'été prochain, je me rendrai sur une étape, simplement pour rendre hommage à notre champion, celui qui nous a fait penser à autre chose, celui qui n'a pas eu peur de pédaler dans le vide, fournir autant d'efforts sans avancer, rester amarré. Dans son action, c'est lui qui a le mieux dépeint notre condition. Cet été, je serai dehors. Plus que 2 jours. Ce soir, comme tout bon citoyen, après avoir mangé un bon avocat au repas, je regarderai la télé, sagement. La télé, c'est bien la seule fenêtre au travers de laquelle je puisse regarder. Pendant ce temps, Guillaume dévorera les nouvelles revues pornographiques qu'il a achetées sous le manteau, aujourd'hui à l'atelier. J'aurais jamais cru qu'un type puisse consommer autant de revues porno sans se lasser. C'est grâce à des mecs comme lui que Larry Flint est devenu milliardaire et a pu se faire faire un fauteuil roulant en or. Il peut presque se balader librement, lui aussi. Le soir, c'est le moment que choisissent certains pour aller au parloir. D'autres s'évadent chimiquement avec la drogue. J'ai moi-même eu une assuétude passagère, mais j'ai vite décroché, même s'il m'a fallu quelques nuits blanches. Ma rédemption s'est produite dans un grand bruit de chasse d'eau. C'est ce soir que je sors. De l'écarlate des débuts, la brique de ma cellule est devenue anthracite. C'est un signe. C'est ce soir que je mets fin à 15 ans de routine carcérale, 15 ans de règlement, 15 ans de souvenirs brutaux, 15 années durant lesquelles je me suis rappelé l'extérieur. Ce soir, je quitte les miens, des vieux ténors du braquage à la française, aux dealers de cages d'escalier, en passant par les petits escrocs, les chauffards et les assassins. Autant de différences qui renvoient à une unité de condition. Tous croient que les détenus sont des durs, mais chacun est fébrile ici, avec cette obsession de la liberté qui rend agressif et dépressif. Je quitte aussi gardiens et psychologues, je m'en remettrai. La place d'un écrivain n'est pas un géol, sauf sous un régime totalitaire. Le tunnel est prêt, je ne suis plus là.
Voilà. Merci beaucoup Marian pour cette lecture et cette nouvelle surtout donc qui a il y a de l'humour hein, dedans il y a avec l'anecdote donc du détenu là qui suit le Tour de France puis bon dans certaines phrases enfin on sent l'humour un peu l'ironie même l'ironie du sort hein, finalement du sort des détenus hein, qui sont qui sont enfermés et cette série enfin pour l'écrire la série que vous aviez regardée à la télévision vous a aidé parce que bon on dirait presque que vous avez vécu ce genre de situation mais enfin bon vous avez dû faire des recherches ou enfin vous êtes inspiré vraiment
non je vous dis enfin c'est principalement cette enfin oui non même il y a uniquement cette série que je regardais. C'était qui était vraiment très très bien faite et enfin c'était
et très réaliste sûrement ce qui est retranscrit réaliste. C'est réaliste hein ce que
ouais
vous
ouais
fait,
non
hein.
Mais ouais c'était très réaliste bon c'était une série américaine hein, donc ça se passait quand même dans le milieu carcéral américain
oui qui est différent du nôtre
hein. Voilà mais bon malgré tout bon enfin voilà on était baigné complètement dans le quotidien des détenus tout ça enfin et donc ouais effectivement enfin c'était très bien fait du coup moi ça c'est une série qui m'a vraiment marqué quoi et quand il a fallu que j'écrive un texte là dessus du coup
vous êtes inspiré.
Oui je me suis vraiment laissé imprégner de tout ce que j'avais pu voir quoi dans cette série faire entendre les situations etc bon après j'en ai inventé quelques-unes notamment celle
le Tour de France
ouais,
là
le Tour de France ça bon voilà
mais c'est tout à fait ça c'est enfin on imagine que ça peut être tout à fait possible hein
ouais c'est ça
le fait d'être enfermé on essaye tellement de s'échapper par l'esprit que après quand il y a plus ce but enfin cette chose qui alimente et bien on peut effectivement lui il a été poussé enfin il s'est suicidé finalement
C'est ça. Mais d'ailleurs par la suite c'est marrant c'est que j'ai lu que dans le journal qu'il y avait réellement un Tour de France des détenus en fait en vélo quoi.
Ah oui, d'accord.
Voilà, et donc avant le tour à proprement parler, des professionnels, il y a un Tour de France des détenus, quoi.
Figé.
Voilà, pas figé. Je pense, non, qu'ils doivent les amener sur les routes, quand même. Bon,
ça
doit être bien encadré. Après, j'ai pas lu plus que ça, mais en tout cas,
d'accord.
J'ai lu l'information. Donc ça m'a fait, forcément, ça m'a fait penser à ce que j'avais écrit.
Bah oui, effectivement. Alors cette chute, comme je le disais au début de cette nouvelle, donc intitulée « Et si on sortait ce soir ?» Donc bon, déjà le titre est, bon, est amusant.
Ouais, c'est le plus ironique. Quoi.
Voilà, c'est très ironique. Et puis bon, tout au long de la lecture, donc il y a le décompte des jours. Hein, il lui reste 5 jours, 4, 3, 2, 1. Et puis, et surtout, on s'attend bon, à ce qu'il sorte, on va dire, entre guillemets, normalement. Enfin, c'est-à-dire, voilà, il a purgé, voilà. Et en fait, non, pas du tout. Il a creusé un tunnel pendant 15 ans pour pouvoir s'échapper.
Ben, en fait, ouais, l'interprétation, elle est libre, dans le sens où on ne sait pas finalement ce qu'il fait, quoi. On ne sait pas s'il a réellement créé un tunnel. Si...
Ben, moi, c'est ce que j'ai pensé en lisant. Ouais. Après, oui, c'est vrai qu'effectivement...
Après, s'il se suicide lui-même, si... enfin, voilà, s'il a prévu depuis longtemps...
Oui, aussi, oui, j'avais pas pensé
moi je l'ai écrit dans ce sens là quoi, c'est à dire qu'on ne sait pas en définitive ce qui lui a dit. Bon, effectivement il parle de tunnel, mais enfin
oui, ça peut être le tunnel de la mort aussi. Voilà, ça peut être le tunnel, la fin de quelque chose. Oui,
et
tout
donc
à fait.
Moi c'est en ce sens là que je l'avais écrit quoi, pour laisser justement l'interprétation, peut-être que c'est le tunnel aussi tout simple, effectivement d'une
sortie normale, normalisée, il y a plusieurs interprétations bah comme quoi en fait à la lecture finalement les mots sont écrits, mais en fait l'interprète, c'est ça qui est, les mots c'est la liberté finalement. Voilà, parce qu'on peut interpréter, moi je l'ai interprété de la façon du tunnel vraiment pur et simple, hein, c'est-à-dire vraiment matérialisé, on va dire. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut l'interpréter de diverses manières. C'est ça qui est. C'est pour ça que votre nouvelle est très. Et je comprends qu'elle ait été primée pour, donc, au prix de la nouvelle du Crous en 2006, je le rappelle. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Marianne, d'être venue pour lire cette nouvelle. J'y tenais vraiment, hein, depuis vous me l'aviez fait lire, j'avais vraiment envie que nos auditeurs l'écoutent, la connaissent également. Et donc, je vous remercie beaucoup d'être venu la lire en direct.
Bah, écoutez, avec plaisir, merci de m'avoir invité.
Et puis, bon, bah, j'espère vous revoir dans quelques temps, hein, devant ce micro également.
Voilà, wait and see, quoi.
Mais oui. Alors, la semaine prochaine, pas d'émission. On se retrouve le jeudi 14 juin. Je recevrai Colette Berthe pour son conte oriental intitulé « Le rossignol chante la nuit », publié aux éditions Thierry Magnier. Voilà, elle viendra nous en parler ici à page sur Radio Occitanie. Alors, en attendant, une bonne semaine à vous tous. Et puis, on se retrouve donc le 14 juin à la même heure, à 10h, sur Radio Occitanie. Merci encore, Marianne. Et puis, j'espère à bientôt.
Eh bien, ouais, à bientôt, on va dire.
Adiciats.